Fluxfort de retour sur le plateau du festival Entrevue à Belfort. Alors voilà le quatrième et dernier plateau de la soirée. Nous sommes désormais en compagnie de Jeanne Crépeau. Jeanne Crépeau, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes une réalisatrice et scénariste québécoise et vous êtes ici à Entrevue à Belfort car votre film Jouer Ponette qui a été réalisé en 2002 est présenté dans le cadre de la Fabrica. Donc c'est la rétrospective qui est consacrée au travail de Jacques Doyon. Alors Jouer Ponette dans le cadre d'une Fabrica pour Doyon, oui, en effet, car pour faire ce film, vous êtes partie des bandes de ce qu'on appelle le combo, donc c'est l'écran témoin de la caméra, ce serait comme une sorte de boîte noire d'un film, justement du film Ponette qu'avait fait Jacques Doyon. À partir de ces images, vous avez construit votre propre film qui raconte à la fois le travail avec les acteurs et l'élaboration d'un film, et les acteurs étant justement en l'occurrence de très jeunes enfants qui étaient âgés de 3 ans et demi et 4 ans. Alors d'abord, comment est-ce que vous avez rencontré Jacques Doyon, Jeanne Crépeau?
J'ai rencontré Jacques Doyon avant de faire Jouer Ponette. En fait, il était venu à Montréal en 90 à l'invitation de la Cinémathèque québécoise qui faisait une rétrospective de ses films. Et donc, avec le directeur de la Cinémathèque, Robert Daudelin, on était allé manger avec Jacques Doyon. Donc, à cette occasion-là, on avait parlé de choses et d'autres. Et l'année suivante, il est venu à Montréal pour tourner la fin d'un film, Amoureuse, à l'époque. C'est avec Charlotte Gainsbourg, Yvon Attal et un autre producteur que j'oublie pour l'instant, un acteur qui est devenu producteur, Thomas Dankman, voilà, c'est le trio. Et donc on a sympathisé. Donc c'est vraiment beaucoup d'années plus tard où j'ai eu l'idée de faire un travail universitaire d'abord sur Ponette, que j'ai retrouvé Jacques Doyon. Et au début, c'était vraiment pour demander des documents tout simples comme le scénario et puis peut-être les feuilles de script pour essayer de voir un peu comment il avait réussi à faire ce film assez miraculeux qui est Ponette, qui m'avait bouleversée en soi, mais aussi avec ce qui m'intéressait beaucoup dans ce film-là, c'est un peu l'inverse de Walt Disney, de tout ce qu'on avait connu comme film avec des enfants. Enfin, moi qui suis en Amérique du Nord, on est inondé de la mentalité Walt Disney où les enfants n'ont pas de vie, spirituelle propre. C'est-à-dire que le fait de confronter un enfant de 4 ans avec la mort, moi, ça m'était arrivé dans ma vie personnelle d'avoir une fille de mes amies qui a 4 ans, à l'occasion de la mort de son grand-père, avait compris non seulement qu'elle ne reverrait plus son grand-père, mais à la fois que ses parents allaient mourir. Donc c'était quelque chose pour moi qui me touchait beaucoup, ce film-là, et j'avais envie de voir comment Doyon avait travaillé. Alors, c'est sûr que c'est un concours de circonstances un peu compliqué à résumer, mais en gros, je travaillais donc sur le film Ponette de façon très académique. Et mon directeur de maîtrise, qui était Alain Bergala à Sancier, travaillait en même temps sur les bonus de l'édition DVD du film de Doyon sur l'enfance. Donc c'est lui qui a pu obtenir ce matériau absolument unique dans l'histoire du cinéma, qui sont ces cassettes qui normalement sont effacées après un tournage. Normalement, ces cassettes-là sont recyclées. Et évidemment, peut-être 100 ans qu'il y avait quelque chose de particulier dans ce film-là, Doyon les avait conservés. Et donc, il a inhumé, si je pourrais dire, des archives pour les bonus des DVD. Et Alain Bergala, découvrant cela, m'a dit peut-être qu'il y aurait quelque chose là-dedans qui m'intéresserait. Donc, au lieu d'avoir des trucs très, très académiques comme des papiers, des choses comme un rapport de script qui dit on a tourné telle séquence, on a fait 22 prises dans celle-ci, 12 dans celle-là, on a tourné ça les unes après les autres. Tout d'un coup, j'avais un matériau tout à fait vivant où on voyait des répétitions et le travail de Jacques avec ces jeunes acteurs. Évidemment, ces images-là sont extrêmement fragmentaires. J'ai jamais eu la prétention ou j'ai pas non plus l'intention de montrer tout le travail. Parce que moi, j'étais pas sur le plateau. En fait, j'ai récupéré 10 ans plus tard ces images-là qui captaient chaque prise, mais aussi de temps en temps un petit bout d'une répétition ou un petit bout d'une direction entre le metteur en scène et ses acteurs. Voilà, tout à fait par hasard. Fait que c'est une espèce de grande série de circonstances qui ont fait que j'ai eu entre les mains ce matériau et que j'ai pu en faire un film, voilà.
Mais alors oui, vous dites j'ai pu en faire un film, mais ça ne semble, enfin c'est pas forcément évident de se dire qu'on va faire un film à partir de ces éléments-là.
Non, parce que évidemment toutes les indications du metteur en scène à ses acteurs derrière la caméra ne sont pas captées par le preneur de son, sont pas faites pour être enregistrées, sont pas faites pour être présentées à un public. C'est vraiment, sont à peu près des parasites sur la bande vidéo. Donc, moi-même, il a fallu que je regarde ces bandes-là plusieurs fois pour essayer de, premièrement, entendre ce que le metteur en scène disait à ses acteurs. Et ensuite, essayer de décoder ce qui se passait sur le plateau. Et ensuite, essayer de trouver une manière de rendre ce matériau-là lisible pour quelqu'un, qui n'est pas en cinéma nécessairement, qui ne connaît pas nécessairement les rituels d'un plateau, et deux, qui voit le matériel une seule fois. Donc, mon travail à moi d'interprétation sur le tournage de Ponette, ça a été de trouver une méthode pour que dès le premier visionnement, le spectateur se dise « Ah oui, c'est ça qui se passe », ou alors puisse adhérer ou pas à l'hypothèse que moi j'aimais sur ce qui s'est passé ce jour-là sur le plateau et ce que Doyon a dit. Voilà. Donc, c'est vraiment fragmentaire. Mais
oui, et donc, cette méthode, c'est notamment le fait de cette image-là est diffusée au centre et au-dessus défile un texte qui explicite.
Voilà.
Parce que vraiment le choix de la pédagogie.
Oui, c'est sûr qu'au départ, c'était un petit peu ça l'idée, mais je ne voulais pas utiliser... les outils classiques, c'est-à-dire avoir une voix off qui décrit ou des choses comme ça, parce que je voulais jamais interférer avec le son du film lui-même. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à ce choix de mettre des textes par-dessus l'image, mais évidemment calculer assez précisément pour pas que ça cache quoi que ce soit d'important pour le spectateur. Et ça a été un travail assez minutieux, têteux, comme on dirait chez nous.
Ce choix-là, justement, d'incruster des textes et ne pas faire témoigner par l'intermédiaire d'interviews, par exemple, ce qui se fait plus classiquement lors des documentaires, c'est aussi peut-être l'illustration de ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est que c'est un travail universitaire, c'est votre interprétation, vous n'étiez pas sur le plateau, donc c'est une manière aussi de vous mettre en scène et pas mettre en scène les autres acteurs de ce film.
Mais d'une part, c'était universitaire au début, mais ensuite, c'est sûr que ça a dépassé le cadre universitaire. Et d'autre part, moi, j'avais un matériau tellement riche que je sentais pas le besoin de faire des entrevues avec les personnages. D'autant qu'avec les enfants, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer Victoire, c'est sûr que les souvenirs, quand j'ai fait le film, ces enfants-là avaient une quinzaine d'années, les souvenirs d'adolescents sur ce qui s'est passé quand ils avaient 4 ans, je ne sais pas si j'aurais pu vraiment trouver des éléments d'approfondissement de ce qui s'est passé. Moi, je préférais partir de mes intuitions, effectivement. C'est une manière, effectivement, de me mettre en scène parce que moi-même, étant cinéaste de fiction, moi-même ayant travaillé avec des acteurs, c'était un petit peu ce qui m'intéressait aussi là-dedans, de voir un peu comment... Enfin, si vous voulez, mon point de départ, c'était de prendre pour acquis que c'est pas nécessairement... spécial, que ce soit des enfants ou pas, ce que Victoire ou ce que les autres enfants font dans ce film-là, c'est un travail que tous les acteurs font. C'est un petit peu ça l'hypothèse de base, si vous voulez, du film. Donc c'est sûr que ça, c'était la manière dont moi j'ai pu interpréter ce matériau-là. Alors à ce moment-là, les entrevues avec, par exemple, les gens de l'équipe, tout ça, il y a plein d'autres intervenants qui ont fait ça. Par exemple, justement, les bonus des DVD... de Doyon, par exemple, Ponette, il y a des entrevues avec les collaborateurs et tout ça. Moi, je me sentais pas nécessairement dans cette dynamique-là. Moi, ce que je voulais, c'est essayer de faire parler le maximum le matériau qu'on m'avait confié, que personne d'autre avait sur ce film-là. Et bon, parfois, des intuitions ou des hypothèses que j'ai amenées après avoir fini le film, en discutant avec des gens du plateau, la plupart des gens m'ont dit que j'avais vu assez juste, voilà. Mais bon... Évidemment, c'est une histoire de 3 mois de tournage. Ça ne peut pas être résumé en une heure et demie de fragments. En fait.
Alors, Jacques Doyon, il dit que le combo a tourné à certains moments où justement il n'aurait pas dû tourner. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert aussi sur le film dans ces moments-là?
Ben, justement, c'est tous ces petits fragments qui composent le film. C'est par exemple on voit une image un peu floue. De très loin, on voit Xavier Beauvois qui jouait le rôle du père de Ponette et Jacques Doyon en train de discuter. On n'a presque pas de son parce qu'on entend Jacques Doyon qui parle par le micro-cravate de Xavier Beauvois. Normalement, ça n'aurait jamais dû être enregistré. C'est simplement parce que l'assistant caméra qui s'occupe de toutes ces choses-là, il s'occupe aussi de charger la pellicule dans les magasins et tout ça, mais entre autres, il s'occupe de démarrer ou de fermer l'enregistreur vidéo. Il se trouve qu'à ce moment-là, il était occupé par autre chose, il a oublié, et donc c'est enregistré. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça qui normalement ne servent à rien quand on utilise un combo pour voir les prises, c'est tout. On n'utilise pas un combo pour enregistrer, je sais pas, les répétitions, ou toute la scène aussi où le metteur en scène explique à Victoire que le personnage a peur. Et Victoire qui résiste énormément en disant non, moi j'ai pas peur, mais qui essaye, Jacques essaye de lui expliquer que dans le film, Ponette a peur. Tout ça, c'est aussi quelque chose qui normalement n'est pas enregistré. C'est une erreur. Voilà, donc ce film-là est fait à partir de petites erreurs qui deviennent pour moi des trésors.
Vous dites, Jeanne Crépeau, en fait, que aussi ce qui vous a intéressé quand vous avez découvert le combo, c'est que vous voyez le travail que les acteurs font. Voilà, qu'il y a un travail d'acteur. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette question du travail d'acteur, du fait de devenir comédien?
C'est-à-dire comme metteur en scène, moi, c'est toujours un peu compliqué parce que comme cinéaste, on a très rarement à l'école, en tout cas à l'époque où moi j'ai étudié, on n'a pas de cours sur la mise en scène avec les acteurs, le travail avec les acteurs. C'est toujours un peu compliqué d'avoir un langage commun. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir que, en fait, le travail du comédien, le travail de la construction du personnage et tout ça, c'est un vrai travail, très simple, avec des étapes et un langage commun avec un metteur en scène. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'au moment où le metteur en scène dit « action », le comédien se transforme dans ce personnage-là? Il y a quelque chose de très mystérieux qui va toujours le rester. Mon film n'est pas là pour, évacuer ce mystère-là. Mais il y a quand même des petites choses à savoir. Et donc, c'est un peu ça qui m'intéresse depuis toujours, et en particulier dans ce film-là. Qu'est-ce qui fait que, à un certain moment, une part de jeu, une part de travail, qu'est-ce qui fait que cet acteur se transforme en personnage? Voilà. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais...
Oui, Antoine alors, Philippi.
Alors, justement, oui. Vous dites que votre film n'enlève pas cette part du mystère, non. Cette part de la magie. Néanmoins, il nous permet d'accéder quand même à un matériau qui est assez incroyable, qui est vraiment un décryptage de l'envers du décor, une manière de fonctionner que le spectateur ne voit pas à l'écran. Il en subit juste la magie. Alors, il y a quasiment même un peu plus de 10 ans qui se sont passés entre l'œuvre originale Ponette et votre film. Est-ce que justement ces 10 ans étaient indispensables pour permettre le temps de faire son œuvre, de vous laisser décortiquer ce travail pour pas remettre trop vite en cause justement le choc du spectateur par rapport au film Ponette qui a vraiment eu un succès?
Peut-être, c'est vraiment la première fois qu'on me pose cette question-là, mais vous avez peut-être raison, peut-être que ça prenait ces 10 années-là. Mais je peux vous dire que même après 10 ans, quand j'ai eu le matériel, le vidéo entre les mains, quand j'ai regardé par exemple la scène de la prière, même avec une image, je ne sais pas si les auditeurs peuvent imaginer un truc de combo en 95, ça s'appelait de la HI8.
C'est un noir et blanc avec un grain très...
C'est très, très, très gros grain, c'est tout brisé, le signal est à moitié défait. Malgré ça, la scène de la prière où Ponette implore le Dieu Tout-Puissant, parce qu'elle a appris ce truc-là d'une de ses copines à l'école, que peut-être avec ça, elle pourrait entrer en communication avec sa mère. Elle implore le Dieu Tout-Puissant de dire à sa mère de lui parler. Moi, ça m'a pris des dizaines de visionnements avant d'arriver à regarder ce matériau-là, sans me mettre à pleurer à chaque fois. Donc, malgré ces 10 années-là, il a fallu quand même un petit temps d'approvisionnement, d'apprivoisement pour ce type de matériau-là. Mais peut-être, mais c'est un peu un hasard si c'était 10 ans plus tard. Tout ça, comme je vous racontais tout à l'heure, c'est un petit peu un hasard et des choses qui se sont mises en place. Mais peut-être que j'aurais pas pu le faire, effectivement, tout de suite après, pardon.
Oui, autre chose aussi par rapport à votre film, c'est vrai que dans le, que ce soit dans cet intérêt sur le jeu, sur le fait de devenir acteur, ou dans le fait même que jouer Ponette s'intéresse à comment on fait un film, on a un intérêt qui est commun, qui est pour cette histoire de l'origine au final. Origine du jeu d'acteur, origine du film.
Peut-être, mais vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de comment on devient acteur, mais comment les acteurs adultes, professionnels, passent par les mêmes moments de création que des enfants. C'est juste que c'est moins, comment dire, c'est moins transparent, c'est moins clair que dans ce film-là, parce que, évidemment, quand on est adulte, on a toute une espèce de barrière. Donc, je ne sais pas très bien si je peux répondre à votre question, parce que je ne sais pas si c'était vraiment dans mes préoccupations, mais c'était vraiment le travail d'adulte. C'est vrai que Victoire est devenue comédienne pendant le tournage, mais d'ailleurs, c'est très confrontant. Enfin, moi, j'ai présenté ce film-là à des acteurs professionnels, des comédiennes, des grandes comédiennes québécoises qui sont des copines à moi. Et il y avait deux types de réactions chez les étudiants. C'est très, très confrontant pour eux parce qu'ils travaillent très, très dur pour devenir acteurs. Ils sont 12, mettons, dans l'École nationale de théâtre du Canada. Ils sont élus. Ils sont 12 seulement dans tout le Canada. Et tout à coup, ils voient une petite fille de 4 ans qui a gagné un prix d'interprétation comme comédienne. Donc, c'est un peu confrontant. Par contre, des actrices professionnelles très, 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 très douées, mais la réaction qu'il disait, c'était « Nous aussi, on serait très bonnes si on avait 25 prises. » Voilà, ça serait le...
Justement, on voit dans votre film que Paulette devient actrice, alors oui. Qu'au début, elle a des moments très, très difficiles. Elle passe par une phase d'apprentissage. Nous, on voit votre œuvre sur une heure et demie. Vous avez accès à tous ces rushs. Est-ce que vous pensiez qu'avec toute cette matière que vous avez pu visionner, l'issue aurait pu être différente malgré le travail de Doyon, malgré le travail de l'équipe, qu'elle aurait pu être dans une situation d'échec par rapport à cette phase d'apprentissage quand on a 4 ans et qu'on essaie de devenir acteur?
Alors là, moi, je suis assez mal placée pour vous répondre. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que si ça n'avait pas été Jacques Doyon, si ça n'avait pas été Victoire Tivisol, ce film-là n'aurait pas existé. Point. Je pense que les deux déterminations, et du metteur en scène et de l'actrice, ont fait que ce film-là était possible. Donc peut-être qu'à un moment donné, elle aurait pu y arriver moins facilement, mais je pense que tous les deux avaient été déterminés à ce que ça existe. Et d'ailleurs, il y a eu un truc très curieux au Québec. Il y a quelques années, un projet de faire un remake de Ponette. Des gens qui voulaient refaire cette... En fait, c'était une coproduction avec la Grande-Bretagne. Et moi, je ne pouvais pas imaginer que des gens étaient assez inconscients pour penser qu'ils pourraient faire un remake de Ponette en anglais. Et en fait, même Jacques n'avait jamais même été contacté, c'était vraiment passé par Canal+. Évidemment, ce projet-là a été financé. Les gens qui décident ont dit « Oh, waouh, génial, super !» Mais le film ne s'est jamais fait, parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais rendus au casting. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais...
Jacques Doyon disait hier à ce micro qu'ils s'étaient trouvés tous les deux, que lui avait trouvé Victoire et qu'elle, elle-même l'avait trouvé.
Oui, tout à fait, en fait... Oui, il dit que Victoire l'a choisi autant que lui a choisi Victoire. Oui. Mais c'est un peu ça, enfin, j'espère que c'est un peu ça qui transparaît du film, c'est que c'est vraiment deux personnes très déterminées, très intelligentes et qui trouvent une manière de travailler ensemble.
Comment ont-ils reçu ce film, eux?
Vous dire, jouer Ponette? Oh, ben, moi j'ai montré dès le début le travail à Jacques qui m'a encouragée à le faire, même si certaines hypothèses avec lesquelles il n'est pas tout à fait d'accord, mais ça fait tout à fait partie du jeu. C'est assez clair que moi je fais une interprétation de ce travail-là. C'est pas, j'ai pas la vérité et je ne prétends pas l'avoir. Et pour ce qui est de Victoire, ben, moi j'ai pu en parler avec elle pour la première fois juste ces jours-ci grâce au Festival de Belfort, en fait. Et elle était très contente. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que elle avait toujours gardé des souvenirs de ce tournage-là comme étant très amusant, Donc, son souvenir, c'était l'amusement. Et grâce au film, elle s'est rendue compte qu'il y avait aussi beaucoup de travail.
Et c'est vrai qu'en plus, quand Jacques Doyon parle de son travail et du cinéma, lui dit, il emploie beaucoup ce terme « jouer et s'amuser ».
Oui, oui.
C'est aussi quelque chose qui revient.
C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi très amusant.
Alors, dans d'autres de vos films, Jeanne Crépeau, vous avez aussi fréquemment ce goût pour mêler le documentaire et la fiction, parce que c'est vrai que là, pour jouer Ponette, vous partez de ce qui serait un matériau documentaire, mais vous construisez autre chose. On avait à ce micro, il y a de cela quelques jours, Lily Instinct, la directrice artistique du festival, qui nous disait que pour elle, ces frontières entre documentaire et fiction sont aujourd'hui un peu caduques. Vous, quel est votre sentiment là-dessus?
C'est-à-dire que moi, j'aime bien, dans un film de fiction, mêler un peu des choses, tourner, si vous voulez, en position documentaire, c'est-à-dire tourner un peu avec une caméra très légère, avec des gens autour de moi, et ensuite le film se construit, et là, on insère beaucoup de fiction. Mais il faut faire attention aussi, parce que ça dépend toujours du registre. Parce que si on commence à faire des documentaires où on met des choses fictives, là, ça commence à être un peu compliqué. Mais moi, c'est plutôt dans la fiction que j'insère des images documentaires et que je mêle un peu les deux. J'ai pas tellement d'idées théoriques et générales là-dessus. Moi, je trouve ça toujours, dans ma pratique à moi, je trouve ça toujours assez amusant de mêler les deux. De faire dire ce que je veux aux images, mais en ayant toujours le clin d'œil avec le spectateur. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est le rapport que j'établis moi avec le spectateur, qui dit attention là, vous pouvez vous faire avoir, et des choses comme ça, un peu de clin d'œil.
En fait, injecter du documentaire, ce serait un moment d'adresse directe au spectateur?
Non, c'est-à-dire que des fois, il y a des images réelles que j'ai tournées, mais que je tords un peu vers la fiction. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et des fois, il y a des voix off. Bon, je peux vous donner un exemple très simple. J'ai fait un film où c'est moi qui ai la voix off, qui raconte un peu l'histoire. Et il y a une scène que j'ai tournée, moi, dans une fête avec des amis.
C'est Suivre Catherine.
Oui, Suivre Catherine. Bravo. Alors, il y a une scène dans une maison de campagne avec une centaine de personnes, c'est des amis, c'était un truc pour mes 40 ans, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Il y a plein d'amis à moi qui sont là. Mais la voix off du film dit, c'est des choses que, les choses qui me manquent quand je suis à Paris, c'est les parties de famille chez ma mère qui avait 10 frères, un truc comme ça. Et c'est la force de la voix off qui raconte, qui donne pour acquis que ces images-là viennent de la famille, et j'ai des amis qui reconnaissaient, de nos amis, qui disaient « Ah, mais ton cousin, il ressemble vraiment à un tel et tout ça. » Parce que la voix off leur disait que c'était la famille, ils ne pouvaient pas reconnaître quelqu'un qu'ils connaissaient à l'écran. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est dans ce jeu-là entre la fiction et le documentaire. La force de la voix off dans la fiction déjoue les images, et c'est la fiction qui a raison. Bon, c'est sûr que ça ne dit pas grand-chose quand on n'a pas vu le film, mais c'est un peu, si vous me parlez de ce registre-là, c'est ce qui m'intéresse un peu.
Mais alors, justement, vous parlez d'autres de vos films, et vous nous disiez hors micro, juste avant qu'on débute, que c'était assez difficile de faire des films pour vous actuellement. Alors, qu'en est-il, justement?
C'est juste une fatigue personnelle, parce que je veux pas, je vieillis, comme on dit. Et puis, après 25, presque 30 ans de production, c'est surtout la production en fait qui est très fatigante, et des équipes de 40 personnes et tout ça, j'ai un peu plus envie de revenir vers la radio en fait, d'écrire des textes et de rassembler des comédiens, des bruiteurs, et de raconter des histoires à partir de la radio. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup avant de faire du cinéma, et voilà, que j'espère refaire de nouveau.
C'est un format plus léger?
Je trouve que c'est un format aussi où l'imagination de l'auditeur est toujours sollicitée et permet effectivement d'inventer plein de décors qui seraient fastidieux et très compliqués à inventer. Et voilà, peut-être que c'est un peu cet aspect-là des choses, les camions d'éclairage et tout ça, ça commence à peser un peu. Enfin, c'est sûr que d'un point de vue économie aussi, c'est différent.
Fabien Velasquez?
Oui, justement, sur cette question de la radio, vous nous disiez également hors micro que vous aviez connu le premier congrès des radios libres, hein, si je ne dis pas de bêtises, et donc vous avez connu les radios communautaires, je ne connaissais pas le terme pour le Québec, et comment voilà, vous avez ressenti ça en arrivant en France, donc est-ce que vous avez apporté votre propre énergie, vos témoignages par rapport à des expériences peut-être plus modestes en France qui débutaient ?
Mais là, vous me parlez de 1982.
Oui.
J'en ai quand même un souvenir un peu flou, mais je me souviens que c'est sûr qu'il y avait une énergie qui venait du Québec, qui renforçait et encourageait toutes ces radios libres qui venaient d'être officialisées en 81, en fait. C'est ça, à l'arrivée des socialistes. C'est sûr, parce que nous, on avait quand même déjà un réseau, on avait des tas de manières de fonctionner. Je suppose, en fait, qu'on a apporté ça, mais ça fait quand même assez longtemps. Et moi, je me souviens aussi d'avoir, avec beaucoup de plaisir, rencontré mes collègues français, et on a pu faire des échanges de stages et un truc assez formidable. Mais voilà, ça fait quand même un certain nombre d'années. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est que le maire de la ville de La Rochelle, à cette époque, portait le même nom que moi, Michel Crépeau, et qu'on m'avait proposé de me présenter au maire de La Rochelle. J'étais très émue. Et qu'il y avait déjà des bicyclettes en libre utilisation, je sais pas comment on dit ça, à La Rochelle en 82, voilà. Donc c'est un peu les souvenirs que j'ai, parce que sinon c'était les mêmes réunions qu'on avait déjà au Québec, voilà.
Alors juste pour anecdote, en fait c'est assez drôle, puisque l'un de nos chefs rédac, Philippe Schweyer, qui est juste derrière, a vécu et travaillé à La Rochelle, et il nous a demandé en boutade si vous étiez la fille de Michel Crépeau.
Eh bien, à l'époque, on disait que nous étions cousins. Mais de toute façon, ma famille vient de la grande région de La Rochelle.
Alors, nous allons bientôt devoir vous laisser partir. Je tiens à poser juste dernière question. Donc là, vous nous disiez que voilà, vous pensez à la radio, peut-être parfois au plaisir que vous auriez à y retourner. Pour autant, qu'est-ce qui a fait un moment dans votre parcours que vous êtes allé de la radio vers le cinéma ?
C'est encore un autre concours de circonstances. Je travaillais dans une émission de radio. J'ai dû rater un cours de cinéma pour aller faire une émission de radio. Puis on m'a dit qu'il y avait un stage. Enfin, j'étais en communication, en fait. En communication. Donc, c'était, il y avait cinéma, il y avait radio, il y avait journalisme. Et j'ai dû rater un cours pour aller travailler. Et c'est le professeur qui m'a dit qu'il y avait un stage à l'Office national du film du Canada. C'est un peu comme ça que je suis arrivée à faire des stages et ensuite faire des films. Voilà, donc je sais pas, c'est toujours un peu un hasard. Je sais pas si un jour dans ma vie, il va faire quelque chose qui va être déterminé, mais pour l'instant, les hasards étaient heureux.
D'accord, très bien, mais merci à vous.
Ben, merci à vous.
Vous allez voir un film, là ?
Oui,
on va aller
voir un film en compétition. Tire, c'est le premier film de la compétition que je peux voir ce soir. Tire.
D'accord.
Je n'en sais pas plus.
Bon, eh bien, très bon film à vous.
Merci.
Flux Force est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière émission dans le cadre du 28e Festival de cinéma de Belfort, Entrevue. Cette émission était réalisée par Olivier Legras. Merci Olivier, à demain. Sinon, au micro, Antoine Philippi. À demain Antoine.
À demain.
Et Fabien Velasquez. À demain Fabien.
Au revoir.
Au revoir.
Flux Force.
Flux Force Mix.
Mix. Mmh.